voix lue. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve
Pierre-Emmanuel Doza a traduit de l'allemand les lettres et les carnets de Hans et Sophie Scholl, édités chez Talendier. Qui sont Hans et Sophie Scholl, deux jeunes étudiants allemands qui, le 22 février 1943, vont être guillotinés pour avoir distribué des tracts appelant à la liberté. Canal Académie vous propose d'écouter ces textes bouleversants par deux jeunes comédiens du Théâtre National, Laurent Charpentier et Sarah-Jeanne Drillo, et vous pouvez écouter la version longue dans notre médiathèque. Mais avant tout, Monsieur Doza, bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous nous introduire ces textes et en quoi sont-ils uniques ?
Il est extraordinaire d'abord de voir des jeunes gens s'engager et dire les choses aussi claires. Il faut savoir qu'ils ont été condamnés pour avoir animé un mouvement qui s'appelait La Rose Blanche, qu'ils ont créé eux-mêmes, donc entre étudiants d'une vingtaine d'années. Et ils ont en tout et pour tout distribué 6 tracts entre l'été 42 et le début de l'année 43. 6 tracts qui sont malgré tout extraordinaires et qui font du tract un genre littéraire et politique à part entière. Ils sont d'une tenue intellectuelle et morale absolument bouleversante, et ils ont dit des choses qui n'avaient jamais été dites jusque-là, jamais été dites sur la place publique. Alors ce sont des enfants qui avaient entre 15 et 17 ans à l'avènement du Troisième Reich. Autant dire que toute leur conscience politique s'est formée sous ce régime-là. Ils ont été aux jeunesses hitlériennes parce que leur père, assez hostile au régime, ne voulait pas leur faire subir les conséquences de ses propres choix. Mais parallèlement, ils ont étaient assez vite insatisfaits et ils se sont organisés dans un mouvement de jeunesse parallèle. Petit à petit, leur conscience politique s'est développée et donc dans ces tracts, ils ont dit un certain nombre de choses qui étaient insupportables au régime. Ils ont parlé de la servitude volontaire de la population allemande. Ils ont les premiers et probablement les seuls à cette époque en Allemagne et dans tous les mouvements de résistance dénoncé le crime contre les Juifs, expliquant que c'était un crime contre l'humanité, que rien ne pouvait lui être comparé dans l'histoire. Et donc, ça a été probablement les premiers à parler de la Shoah ou de l'Holocauste, comme on dit aujourd'hui, comme quelque chose d'absolument terrible qui changeait la nature même de l'histoire et de notre rapport à l'histoire en Occident.
Ces textes ont été retrouvés grâce à quoi ?
Alors, les textes qu'on va entendre sont à la fois des lettres écrites à des amis, donc qui avaient été gardées par des proches, des journaux intimes, et puis qui ont été parsemés de certains extraits de tracts qu'ils ont écrits. Alors les tracts n'ont pas été écrits par eux seuls, ils ont été écrits par le groupe des étudiants, ainsi que certains professeurs de leurs amis, dont l'un d'eux, Kurt Huber, 50 ans, professeur de philosophie, a été exécuté un petit peu plus tard que les Scholl. Alors, ce sont des textes qui ont été retrouvés parmi les affaires des membres de la famille et des amis, qui ont été publiés assez tardivement en Allemagne, uniquement au milieu des années 50, et qui n'ont eu qu'assez tardivement un écho en réalité. Et en France, c'est vrai qu'il faut attendre plus de 40 ans pour qu'une version française soit enfin présentée au public et qu'on prenne la dimension réelle de l'engagement de ces jeunes gens. Parce que non seulement ils ont dit des choses que personne n'avait dites, mais ils ont eu un effet absolument capital sur l'histoire de la résistance allemande. C'est ça qu'il faut bien voir, c'est que tous les gens qui en 1944 feront l'attentat contre Hitler, deux jours après la distribution des tracts qui a été fatale au Scholl, non seulement ils étaient au courant de ce qui s'était passé, mais ils avaient lu les tracts, que le dernier tract parviendra à Londres par un circuit assez compliqué, sera lu à la BBC et sera distribué à des centaines de milliers d'exemplaires en Allemagne. Et donc, le tract de ces jeunes gens de 20, 22 ans, 23 ans a été vraiment un coup de tonnerre qui a secoué la torpeur morale des élites allemandes et qui est, à mon sens, déterminante dans l'engagement d'un certain nombre des grandes figures de la résistance allemande comme Hassel, comme Moltke, et même dans une certaine mesure comme Stauffenberg, même si une bonne partie des résistants allemands de juillet 1944 n'avaient pas la lucidité et le courage de dénoncer le génocide comme l'avaient ces jeunes gens.
Donc ce courage-là, récompensé par la sensibilisation, vous pensez vraiment d'un certain nombre de personnes par la suite ?
Ça, c'est assez clair quand on consent à lire les journaux. Le problème, c'est que comme c'était des jeunes gens et comme ils étaient relativement naïfs, purs, idéalistes, qu'ils écrivaient. En réalité, leurs écrits sont bouleversants parce qu'ils préparent cet engagement. Ils dénoncent ce que personne n'ose dénoncer. Ils ont été les seuls à le faire à cette époque-là. Et en même temps, leurs préoccupations de tous les jours sont des préoccupations d'enfants, de jeunes gens, d'adolescents. Ils sont drôles, ils sont amusants, ils sont curieux de tout. Mais en même temps, on n'en voit pas immédiatement la dimension politique. Or, là, il y a un déficit du travail historique qui est évident et que permet de réparer la publication de ces lettres. C'est que quand l'on regarde les journaux intimes de tous les conjurés de 1944, on se rend compte réellement qu'ils ont lu ces textes-là et qu'ils se sont dit « mais c'est pas possible, pourquoi restons-nous les bras croisés alors que ces jeunes gens sont prêts à donner leur vie ?» Et beaucoup de gens, après, se seront engagés. Quand on voit quelqu'un d'aussi noble et courageux que le Prussien Rek Malek-Zeven, qui sera assassiné ensuite dans un camp de concentration, quand on voit l'ancien ambassadeur d'Allemagne à Rome, Ulrich von Hassel, qui était une conscience extraordinaire. Et on voit que là, ça a été un détonateur. Donc ça marque véritablement un tournant dans l'histoire morale de la résistance allemande.
On va écouter tout de suite ces textes qui sont lus par deux comédiens du Jeune Théâtre National, donc Laurent Charpentier et Sarah-Jeanne Rioux. Merci Monsieur Dosa d'être venu nous parler, nous introduire donc ces lectures. Donc je rappelle Hans et Sophie Scholl, des carnets édités chez Talendier.
Stettin, 28 juin 1938. Mes chers parents, nous sommes déjà confortablement installés au Heuberg. Le soleil brille toute la journée, mais il souffle un petit vent frais. Le paysage est d'une beauté exceptionnelle. Notre voyage et les 3 jours de manœuvre ont été une expérience inédite. Je suis toujours joyeux et plein d'entrain. Cet après-midi, nous avons tiré à balles réelles. Mes oreilles en bourdonnent encore. À d'autres égards, je pourrais être sur la Lune actuellement. La politique, etc., n'existe pas sur le Heuberg. Ça fait des semaines que je n'ai pas vu un journal. Nous passons naturellement notre temps à discuter des affaires militaires et à débattre du tour que prendront les choses dans la prochaine guerre. Très peu de mes camarades prennent la peine de se demander pourquoi il devrait y avoir une guerre. La majorité marcherait aveuglément, sans un mot, les masses. Je déteste de plus en plus ce concept. Très affectueusement, votre Hans. 21 octobre 1938, lettre à sa sœur Inge. Ma chère Inge, de ma vie, je n'ai jamais été aussi patriote, au sens vrai du mot. C'est seulement quand on est obligé de se demander si la patrie signifie encore autant que par le passé. Seulement quand on a perdu la foi dans les étendards et les discours parce que les idées qui ont cours sont devenues banales et sans valeur. Que s'affirme le véritable idéal. Merci beaucoup du magnifique cadeau d'anniversaire. Je suis impatient de te revoir à Ulm en novembre. Je suis affecté à l'hôpital de Ludwigsburg le 1er novembre. Je pourrais alors commencer mes études au printemps 1939. La semaine dernière, j'ai passé mon examen d'officier de réserve. J'ai acheté le livre de Wichert à un ami de Wichert à Stuttgart. C'est le dernier exemplaire de cette édition qui ne sera pas réimprimé. Il m'a dit que Wichert est de nouveau libre, mais son tout dernier livre est interdit de publication. L'automne a pris possession de nos cœurs aussi. Il est irrésistible, mais qu'importe, le printemps reviendra. À bientôt.
Ulm, 19 septembre 1939. Mon cher Fritz, merci beaucoup de tes lettres. Je voulais t'en écrire une dimanche, mais elle ne te serait pas parvenue à temps. Comment ça se passe de ton côté ? Toujours calme ? Je vais naturellement terminer Peter Pan et les autres illustrations. Parce que je ne vois pas pourquoi, en temps de guerre, on s'en tiendrait aux sujets les plus tristes. Non que la guerre se fasse particulièrement ressentir ici, en dehors du fait qu'on ne fait pas vraiment bombance et que la ville grouille de soldats. À propos, l'autre jour, nous avons vu un avion descendre en piqué sur la cathédrale et remonter en chandelle au-dessus par deux fois. Il a accompli un looping au-dessus de la ville, puis il est reparti. C'est le premier avion ennemi que nous ayons vu. Nous ne cédons pas à l'espoir que la guerre puisse trouver une fin rapide. Nous verrons bien. J'espère que tu auras au moins une permission à Noël, que je puisse payer mes dettes et pour d'autres raisons. J'attends impatiemment une réponse à cette lettre, ou est-ce trop espéré? Après tout, je n'ai aucune idée de ce que tu fais de ton temps. Moi, je t'écris juste quand l'envie me prend. Très affectueusement, Sophie. Ulm, avril 1940. Mon cher Fritz, quand tu ouvriras ce paquet, imagine que je suis avec toi. Non, il n'y aurait pas besoin de paquet alors. Je ferai du thé et des tartines et on serait confortablement installés. Tu devrais t'asseoir en face de moi, comme un gentil garçon, de manière à ne pas renverser ton thé. Puis on se mettrait sur le canapé et on se regarderait et subitement le magazine ou livre tomberait par terre et on l'y laisserait. Puéril, hein ? Je ne compte pas écrire beaucoup aujourd'hui. Je préférerais te raconter des histoires de printemps. Imagine-les toi-même, sur les bois, les champs, l'eau et nous deux. Et quoi que tu fasses, ne deviens pas un lieutenant arrogant et indifférent. Pardon, mais c'est si facile de devenir insensible, et je crois que ce serait tragique. Bonne chance, très tendrement, ta Sophie.
11 mai 1940, mes chers parents, comme je vous l'ai laissé entendre, nous allons vraisemblablement partir dans les prochains jours. Je suis affecté à la salle d'opération. Nous n'avons pas d'infirmière. Aujourd'hui, repos, nous en avons bien besoin. Pour que vous ne vous fassiez pas de soucis, je vous écris tout de suite quelques lignes. Je ne peux pas faire une longue lettre pour l'instant. J'ai les poignets gonflés et endoloris à force de rouler sur des mauvaises routes. Au cours de la progression, je suis estafette. On ne voit pas grand-chose. La traversée du Luxembourg a été très agréable. La Belgique m'a aussi fait une excellente impression. Mais ici, on voit pas mal de dégâts. Routes défoncées et villages envahis de réfugiés. Je me suis vite lié d'amitié avec les paysans et je me fais très vite à leur langue. Je fais office d'interprète pour toute l'unité. Je suis bien ici. 29 mai 1940, mes chers parents, j'ai reçu hier vos lettres et colis tant attendus. Nous nous sommes établis à la lueur d'une chandelle et l'espace de quelques minutes, chacun de nous s'est retrouvé à la maison. Nous sommes actuellement à Saint-Quentin dans l'attente de notre nouvelle affectation. Je dois parcourir chaque jour autour de 300 km à moto pour porter des ordres. C'est épuisant. La vie de planqué ne me plaît pas. Nous avons bien droit à un raid aérien de temps à autre, mais nous vivons ici dans un tel désœuvrement qu'on se sent un peu abandonné. Il n'y a pas non plus un seul homme ici avec qui je puisse avoir une conversation intelligente. Nous avons réquisitionné les meilleures maisons. Personnellement, je suis plus à l'aise dans la paille. Suis-je un voleur ou un être humain digne de ce nom? On pille tout ici. Je ne cesse de progresser en français, je suis toujours à l'affût d'une occasion d'augmenter ma bibliothèque. Il fait un soleil magnifique aujourd'hui, mais nous ne sommes jamais autorisés à nous baigner. Je vous écrirai plus souvent désormais votre Hans.
Ulm, 16 mai 1940. Mon cher Fritz, voici une semaine aujourd'hui que j'ai eu 19 ans. Tu te souviens encore comment nous avons terminé la journée ? Que s'est-il passé pour toi depuis ? Tout est allé si vite, y compris tes adieux à la gare. J'attends impatiemment de tes nouvelles. Tes narcisses sont fanées. Je les aimais tant que je n'ai pas voulu m'en débarrasser. J'en ai mis un sous presse. Tu as déjà vu des jolies fleurs en Hollande ? J'espère que les innocents n'ont pas tous été détruits. Comment vas-tu ? Tu es cantonné à la frontière ? Vraiment, écris-moi vite. Dommage que nous ne puissions regarder ensemble mon cadeau d'anniversaire. Il est magnifique et beaucoup trop bien pour moi. Il y a des choses que j'aurais aimé dire et te dire, mais que je ne peux mettre par écrit. Nos idées sont si différentes que je me demande parfois si c'est vraiment insignifiant à ce point, quand ça devrait être la base de toute vie commune. Mais c'est vraiment sans importance à présent. Parce que ce dont nous avons besoin, toi et moi, ce n'est pas d'amitié et de camaraderie, mais d'amour. Nous garderons tout ça pour nous en attendant de pouvoir être de nouveau nous-mêmes. Pense à moi parfois, mais ne rêve pas de moi. Je suis souvent avec toi en pensée, avec mes meilleurs vœux et avec amour. Ta Sophie.
Versailles, 4 août 1940, mes chers parents, je vais commencer à renvoyer à la maison une partie des bagages accumulés. Les photos datent de ma période la plus heureuse en France, quand nous nous occupions des réfugiés. À la différence de mes camarades, je me suis refusé absolument à photographier des horreurs. Aujourd'hui, c'est dimanche, il fait un soleil magnifique, Versailles ne me tente pas. Je joue au tennis, lis, écoute de la bonne musique à la radio. Notre répit sera de courte durée, c'est certain. Ce soir, je compte me plonger dans les poèmes de Victor Hugo. Si seulement je pouvais vous offrir quelques conserves de mon délicieux jus d'ananas, vous en seriez ravis.
À l'école, 23 septembre 1940. Mon cher Fritz, je ne sais pas très bien si mes lettres seront moins fréquentes désormais. Il y a toujours des tas de choses à faire quand je rentre de l'école. Tu m'as demandé de t'écrire ce que je pense de la nation. Je n'en aurai pas le temps pour l'instant, mais le concept, même s'il n'est pas très bien défini, me paraît assez clair. Dans mon idée, la position d'un soldat vis-à-vis du peuple est assez proche de celle d'un fils qui jure de défendre sa famille, quoi qu'il arrive. Que son père fasse du tort à une autre famille et s'attire ainsi des ennuis, le fils doit de toute façon soutenir son père. J'ai du mal à faire mienne cette conception de la parenté. Je trouve que la justice doit toujours primer sur tous les autres liens. Il vaudrait mieux dans un conflit que les gens puissent prendre le parti qu'ils estiment juste. J'ai toujours trouvé mauvais qu'un père prenne par principe le parti de son enfant. Par exemple, quand le professeur le punit, malgré l'amour qu'il a pour son enfant. De même, je pense qu'il n'est pas bien qu'un Allemand ou un Français ou n'importe qui défende sa nation envers et contre tout, pour la seule raison que c'est sa nation. Les émotions égarent souvent. Quand je vois des soldats défiler dans la rue, peut-être même en musique, je suis émue moi aussi. Et il m'est arrivé d'avoir du mal à retenir mes larmes en entendant des marches militaires. Mais ce sont des sentiments de vieille femme. C'est ridicule de les laisser prendre le dessus. Pour aujourd'hui, très affectueusement à toi, Sophie. La réponse à ta dernière lettre et ce que la nation est pour moi, ce sera pour plus tard. Pardon pour le papier de cahier d'écolier.
À Rose Negeleux, Munich, 24 février 1941. Chère Rose, d'ici peu s'en sera terminé de mon soupçon de liberté. Je suis toujours en déplacement ces temps-ci, il est trop tentant de tout plaquer et de prendre la fuite. Oh, je sens de nouveau ce qu'est la liberté. Je suis rentré de montagne hier. C'est incroyablement beau. Si seulement tu pouvais venir. Si je pouvais entendre le carillon de ta voix à côté de moi. Le soleil brille. Les personnages sont sortis. Je me sens d'humeur à dire oui à tout. Oui, je t'aime. Oui, je sais le chemin. Oui, c'est un enchantement d'être un homme. Puis quelqu'un me claque la porte au nez. Il fait de vous de nouveau noir, nuit. Un petit homme recroquevillé, écrasé par sa misère, accroupi dans le noir, pense, rumine et reconnaît que c'est vain, que ça ne mènera à rien.
Auschwitz, camp du service national du travail. Journal. 10 avril 1941. Voici 4 jours que je suis arrivée. Je partage un dortoir avec 10 autres filles. Je dois souvent me boucher les oreilles pour ne pas entendre les papotages du soir. La nuit, pendant que les autres font des plaisanteries, je lis Saint-Augustin. Je dois lire lentement, tant il est difficile de se concentrer. À la pause de midi aujourd'hui, j'ai aussi lu quelques pages de La Montagne Magique, de Thomas Mann. Je ne pense pas qu'il soit autant à condamner que le fait Hotel. Je m'efforce d'être aussi imperméable que possible aux influences actuelles. Non pas aux influences de type politique et idéologique, qui ont cessé d'avoir le moindre effet sur moi, mais aux influences atmosphériques. Il faut avoir un esprit dur et le cœur tendre. Ça rouspète tant et plus contre notre fureurine. Je n'ai pas de motif personnel de me plaindre, elle met des gants avec moi, à tel point que ça me déroute parfois. Alors qu'elle interdit aux autres d'avoir des livres, elle me les laisse. Pourquoi ? Je n'en ai aucune idée.
février 1942, mes chers parents, cher Inge, ça a été une grande surprise aujourd'hui, passant quelques heures dans ma chambre, d'y trouver 2 paquets pleins de choses exquises. Je me suis baffré et suis allé dormir. Les semaines passées ont été physiquement éprouvantes et sans bonne raison. La situation est devenue de plus en plus tendue. Le conseil de guerre a signalé notre compagnie à l'OKV pour mutinerie. Les dénonciateurs de la plus abominable espèce grouillent dans nos rangs. Ça m'est incompréhensible et vraisemblablement, est-ce la cause de mon accablement ? Personnellement, je n'ai aucun lien avec cette affaire. Nous avons été interrogés un par un aujourd'hui. L'un de mes meilleurs amis compte parmi les accusés. Je n'avais pas imaginé que la masse réagisse ainsi à la moindre petite menace. Mais j'ai beaucoup appris. Schrobenhausen, 18 mars 1942. Mes chers parents, cher Inge, je ne sais pas si vous avez reçu ma dernière lettre parce que mère n'en dit rien dans la sienne. Le courrier que je reçois ici aussi est très irrégulier. Je plains vraiment la Gestapo qui doit déchiffrer toutes ces écritures, pour certaines complètement illisibles. Mais ils sont payés pour ça. Et service, service, n'est-ce pas, messieurs ? Je n'ai à me plaindre de rien ici, j'ai beaucoup de travail. Hier est arrivé de Russie un nouveau transport avec quantité de cas de gelure, et en dehors de moi, il n'y a qu'un seul médecin. Je m'entends très bien avec les infirmières. Ce qu'on attend de nous est très différent de ce qu'on demande à ceux qui ouvrent les lettres des autres et y fourrent leur nez. Je me demande si ces messieurs seraient aussi courageux, s'ils devaient ouvrir des habits imprégnés de pu et empestant affreusement. Ça leur donnerait sans doute la nausée. Je le crains. Je regrette d'avoir déjà fait près de la moitié de mon temps ici, mais je suis aussi impatient de retrouver Munich. Si seulement je pouvais rentrer bientôt à la maison.
Munich, 30 mai 1942. Chère Lisa, ici j'ai chaque jour quelque chose de nouveau à assimiler. Hier, j'ai pris le thé avec le professeur Muth et Sigismund von Radecki. Et dans la soirée, Hans et moi sommes allés voir un ami que nous appelons le philosophe. Ce qui a donné 3 heures de conversation ininterrompue et épuisante. En vérité, j'aurais besoin d'être seule. J'ai hâte de traduire en actes ce qui n'existait ici en moi que sous la forme de pensée et que je crois juste. Hans est un bon frère pour moi. Il m'est de plus en plus cher. Très affectueusement, ta Sophie. J'aimerais beaucoup passer quelques jours seule avec toi quelque part.
Tract de la Rose Blanche. On ne peut pas discuter du nazisme, ni s'opposer à lui par une démarche de l'esprit. Car il n'a rien d'une doctrine spirituelle.
Il est faux de parler d'une conception du monde national-socialiste, parce que si une telle conception existait, on devrait essayer de l'établir ou de la combattre par des moyens d'ordre intellectuel. La réalité est différente.
Cette doctrine et le mouvement qu'elle suscita étaient dès leurs prémices basés avant tout sur la duperie collective et donc pourrie de l'intérieur. Seul le mensonge permanent en assurait la durée.
C'est ainsi que Hitler, dans une ancienne édition de son livre l'ouvrage écrit dans l'allemand le plus laid qu'on puisse lire, et qu'un peuple de poètes et de penseurs a pris pour Bible. Définit en ces termes sa règle de conduite. On ne peut pas s'imaginer à quel point il faut tromper un peuple pour le gouverner.
Cette gangrène qui allait atteindre toute la nation n'a pas été totalement décelée dès son apparition. Mais bientôt, elle s'amplifia et finalement, par l'effet d'une corruption générale, triompha. L'abcès creva, empuantissant le corps entier.
Les anciens opposants se cachèrent. L'élite allemande se tint dans l'ombre. Et maintenant, la fin est proche.
Il s'agit de s'expliquer clairement d'homme à homme. D'avoir ce seul impératif sans cesse à l'esprit. De ne s'accorder aucun repos avant que tout Allemand ne soit persuadé de l'absolue nécessité de lutter contre ce régime.
Si une telle vague de soulèvement traverse le pays, si quelque chose est enfin dans l'air, alors, et alors seulement, le système peut s'écrouler.
Notre dessein n'est pas d'étudier ici la question juive. Qu'on nous permette seulement de rapporter un fait. Depuis la mainmise sur la Pologne, 300 000 juifs de ce pays ont été abattus comme des bêtes.
C'est là le crime le plus abominable perpétré contre la dignité humaine. Et aucun autre dans l'histoire ne saurait lui être comparé.
Qu'on ait sur la question juive l'opinion que l'on veut, les juifs sont des hommes. Et ce crime fut commis contre les hommes. Quel imbécile oserait-il dire qu'ils ont mérité leur sort ?
Faut-il en conclure que les Allemands sont abrutis ? Qu'ils ont perdu les sentiments humains les plus élémentaires ? C'est bien ce qu'il semble. Et même, si le peuple allemand ne se dégage pas enfin de cette torpeur, s'il ne proteste pas partout où cela lui est possible, s'il ne se range pas du côté des victimes, il en sera ainsi éternellement.
Par son immobilisme, notre peuple est coupable de l'existence de ce gouvernement. Chacun rejette sur les autres cette faute commune. Chacun s'en affranchit et continue à dormir. La conscience calme. Mais il ne faut pas se désolidariser des autres. Chacun est coupable. Coupable. Coupable.
Ulm, 27 juillet 1942. Chère Lisa, je reçois ta lettre à l'instant, dimanche matin à l'heure du café. Le 18 août, où tu comptes rentrer de ton excursion en montagne, je travaillerai à l'usine dans une petite ville des environs d'Ulm. J'en ai pour 2 mois. Mes congés devraient coïncider avec tes vacances d'automne, octobre, je crois. Mais je ne sais pas comment ça se passera pour nous, parce que l'affaire de mon père sera jugée dans 1 semaine. Il y a peu de chances qu'il soit ensuite autorisé à rentrer à la maison. En ce cas, je devrais temporairement abandonner mes études. Hans est parti pour la Russie avec tous les autres, dont je m'étais fait des amis au cours des mois passés. Je garde encore un vif souvenir de chaque petit mot et geste d'adieu. Je n'aurais jamais cru que je puisse m'attacher autant à eux tous, surtout à Hans. Excellentes vacances, ta Sophie.
Journal de Russie, 31 juillet 1942. Des nuages gris sont en suspens au-dessus de la plaine. L'horizon est pareil à un ruban d'argent qui sépare le ciel et la terre. Que les fleurs sont belles sur le talus de la voie ferrée. Comme si elle s'était donné le mot pour que ne manque aucune couleur, elles fleurissent ici avec une délicate insistance partout. À côté des bâtiments en ruine, des wagons de marchandises éventrés, de la détresse des visages humains. Les fleurs poussent et les enfants jouent innocemment au milieu des ruines. Russie, 7 août 1942, mes chers parents, vous aurez reçu notre lettre commune. Hier, Werner est venu me voir ici. Nous avons fait une longue promenade ensemble et avons fini chez des paysans russes. Là, nous avons bu quelques verres de vodka et chanté des chansons russes comme en pleine paix. En réalité, il y avait encore des tirs. Les avions russes étaient particulièrement actifs, mais à quoi bon s'inquiéter? C'est stupéfiant de voir à quelle vitesse les Russes se remettent de la terreur la plus extrême. Les partisans sont terriblement actifs. Ils font peser une vraie menace sur nos axes de ravitaillement. Dans tous les territoires occupés, tous les jeunes hommes sont systématiquement recrutés de nuit par les partisans. Et jour après jour, nuit après nuit, des parachutistes se posent derrière nos lignes. Pour l'instant, Je prends le plus grand soin de moi. 1000 pensées affectueuses. Journal, 18 août 1942. Midi. Je fume mon cigare, mais en dehors de Villy, personne n'en apprécie l'arôme. Hier, mère m'a écrit que père a été incarcéré pour ses fameux propos que Hitler est un fléau de Dieu pour l'Europe. Il va devoir passer 4 mois en prison. Mère a joint un projet de demande de clémence. Elle souhaite que Werner et moi en voyons une demande de clémence dans l'idée qu'une demande écrite au front aura plus de poids que la sienne. Je ne le ferai en aucun cas. Je n'implorerai pas le pardon. Je compte en discuter avec Werner aujourd'hui. 22 août 1942, dimanche. Nous autres Allemands n'avons ni Dostoïevski, ni Gogol, ni Pushkin, ni Tourguenieff. Et Goethe et Schiller, répond quelqu'un. Qui ? Un homme de culture. Mais quand as-tu lu Goethe pour la dernière fois ? Je ne me souviens plus, à l'école ou quelque part ailleurs, mais je vous en prie. Mon très honorable universitaire, je vous vois froncer le nez. Pas un mot contre Goethe, rien contre Schiller, Hölderlin ou Stifter. Vous ne connaissez pas, j'imagine. On peut vivre sans eux. On peut se passer de tout, sauf de vitamines, de calories, de divertissements et de plaisirs. Vous n'avez aucune idée de qui a fondé votre université, espèce de gros lard, porte-manteau et sac de riz, comme disent les Japonais. Oh oui, vous représentez la civilisation occidentale, mon cher, même si, par culture, vous entendez la lime à ongles et les water closets. Après avoir fait de Goethe une putain, chacun peut en user à sa guise. Vous comptez en faire autant avec Schiller ? Ne crains rien, brave Swab. Ils ne peuvent pas toucher un cheveu de ta tête, même s'ils prononcent ton nom dans le même souffle que le mot le plus vulgaire et choquant qui se puisse imaginer et que je ne saurais utiliser ici. Nous avons le droit, si nous avons lu Dostoïevski, de critiquer Goethe. Mais nous devons commencer par le défendre. Nous devons le protéger en nous protégeant. Si nous avons un couteau plongé dans le corps, ne le retirons pas, sans quoi nous perdrons tout notre sang. Il ne suffit pas à l'homme de faire son travail. Se contenter d'accomplir son devoir est absurde et fallacieux. L'homme est né pour penser. Dit Pascal, pour penser, mon honorable universitaire, ce mot sonne pour toi comme un reproche. Tu t'étonnes, représentant de l'esprit, mais c'était un esprit malfaisant que tu sers en cette heure désespérée. Tu es riche, mais tu ne vois pas la pauvreté. Tu médites sur les derniers perfectionnements d'une mitrailleuse, mais tu as étouffé la question la plus élémentaire de la jeunesse, la question « Pourquoi ?» Et où allons-nous ? Faut-il qu'une nation soit petite pour appeler Frédéric II le Grand ? Cette nation a combattu contre Napoléon et pour la liberté à seule fin de choisir l'esclavage prussien. Je sais combien la liberté de l'homme est limitée, mais l'homme est foncièrement libre. Et c'est sa liberté qui le fait homme. La liberté et la pauvreté sont humaines, la servitude et l'arrogance prussiennes. Russie, 24 août 1942. Ma chère mère, c'est aujourd'hui que commence la prison pour père. Et aujourd'hui que je reçois ta première lettre et celle de Sophie. L'indignation et la révolte m'ont empli le cœur quand j'ai lu la lettre, et il m'a fallu un bon moment pour retrouver mon calme. J'y suis parvenu, essentiellement grâce à votre grandeur d'âme et à la plénitude de votre amour. Mais je n'arrive toujours pas à me résoudre à écrire un appel à la clémence. J'ai mis Werner au courant, à la manière d'un grand frère. Il l'a pris calmement, en apparence, comme tout. Père va connaître des moments très durs au départ. J'en sais quelque chose. Privé de contact avec le monde extérieur, enfermé seul dans une cellule grise et exiguë. Mais il y survivra. Comme il est fort, il sortira de sa captivité plus fort encore. Je crois en la force incommensurable de la souffrance. Nous allons tous les deux très bien. La plupart des jours, je me promène dans d'immenses forêts avec mon ami Alex. Le soir, nous nous retrouvons chez des paysans russes pour boire du thé ou du schnapps et chanter.
Ulm, 7 septembre 1942. Mon cher père, nous nous sommes tous réjouis de ta lettre. Même si je n'ai jamais craint que le châtiment, comme on dit, ne brise ta vaillance. Bon, maintenant que tu n'es plus ici pour nous tenir au courant, j'écoute consciencieusement les nouvelles et étudie souvent la carte de l'Europe. Tu as reçu la Frankfurter Zeitung et tu sais donc l'essentiel. J'en suis à près de la moitié de mon service en usine. Le travail ne me plaît pas le moins du monde et je suis effarée que tant de gens doivent passer leur vie entière à cette activité morne et sans âme, à raison de 10 heures par jour. La plupart sont aussi malheureux, mais c'est la guerre. Et les choses changeront par la suite. Les nouvelles du front sont invariablement bonnes. Nombre des amis à qui j'ai écrit te saluent bien. Ils travaillent au mur des pensées qui t'entourent. Tu sens bien que tu n'es pas seul. Parce que nos pensées font voler en éclats les barrières et les murs. Les pensées. Ta Sophie. 7 novembre 1942. Mon cher Fritz, Hans rentre de Russie ce soir. Je devrais me réjouir, mais je n'arrive pas à éprouver un bonheur sans mélange. L'incertitude dans laquelle nous vivons aujourd'hui, qui nous interdit de faire des projets insouciants pour le lendemain, voile de son ombre les jours prochains. Elle m'oppresse et ne me lâche pas une minute, jour et nuit. La confiance dans les autres doit céder à la méfiance et à la prudence. C'est fatigant, parfois démoralisant. Mais non, je ne me laisserai pas abattre, ces bagatelles ne sauraient me dominer. Tant que je suis en possession d'autres joies intangibles. Je sens la force couler en moi quand j'y pense. Et je voudrais adresser un mot d'encouragement à tous ceux qui sont pareillement affligés. Ça fait si longtemps que je n'ai pas eu de tes nouvelles que toutes sortes de pensées me passent par la tête. Je voudrais me promener à nouveau avec toi, dans les bois ou ailleurs. Il faudra se contenter d'une feuille de papier à lettres qui t'apporte quantité de pensées affectueuses de ta Sophie. Ulm. 19 novembre 1942. Mon cher Fritz, il a été notifié aujourd'hui à mon père qu'il ne pouvait plus exercer sa profession parce qu'il n'est pas fiable politiquement. Nous nous y attendions, mais nous placions encore quelque espoir dans la pétition de 30 de nos plus gros clients, dont le Kreisamtsleiter d'Ulm. Cette interdiction n'a rien à voir avec la condamnation de mon père par la cour. Elle a été prononcée par la Ligue nationale socialiste des défenseurs du droit sur l'intervention du parti. C'est un nouveau coup dur. Parce qu'un salaire de comptable, mon père pourrait encore être employé à ce titre, ne suffit pas à nourrir une famille nombreuse. Hans et Schurik sont ici depuis quelques jours. Nous reprenons à Munich la semaine prochaine. Affectueuse pensée de nous tous, et en particulier de ta Sophie.
Tract de la Rose Blanche, janvier 1943. Rien n'est plus indigne pour un peuple civilisé que de se laisser sans résistance régir par l'obscur bon plaisir d'une clique de despotes.
Est-ce que chaque Allemand honnête n'a pas honte aujourd'hui de son gouvernement ?
Qui d'entre nous, pressant quelle somme d'ignominie pèsera sur nous et nos enfants quand le bandeau qui maintenant nous aveugle sera tombé et qu'on découvrira l'atrocité extrême de ces crimes.
Nos yeux ont été ouverts par les horreurs des dernières années. Il est grand temps d'en finir avec cette bande de fantoches.
Jusqu'à la déclaration de guerre, beaucoup d'entre nous étaient encore abusés.
Les nazis cachaient leur vrai visage.
Maintenant, ils se sont démasqués et le seul, le plus beau, le plus saint devoir de chaque Allemand doit être l'extermination de ces brutes.
Alisa Rempis, Munich, 2 février 1943. Chère Lisa, autrefois, c'est ce que tu as dit de la souffrance innocente des arbres qui m'y fait penser. Il m'arrivait de désirer n'être qu'un arbre, ou mieux encore, un fragment d'écorce. Ces désirs m'ont habité de bonheur, mais aujourd'hui, je veille à ne pas les laisser monter en moi, à ne pas céder à ce sentiment de fatigue qui cherche son accomplissement dans le néant. Non que j'ai triomphé de ce sentiment. Au contraire, je suis souvent, presque continuellement, en proie à la mélancolie. Je devrais avoir honte de cette lettre. Mais pourquoi ne pas te faire savoir ce qu'il y a en moi ? De plus, je n'écris cela qu'à toi. Et je préférerais que tu ne gardes pas cette lettre. J'ai reçu une lettre de Fritz du 17 janvier. Son bataillon aussi a été anéanti et il ne s'attend plus maintenant qu'à être fait prisonnier ou à la mort. Il a les deux mains gelées pour avoir passé des semaines entières, jour et nuit, en plein air par moins 30. Peut-être est-ce sa dernière lettre, il le croit. La fin de la guerre se rapproche sensiblement. Très affectueuse pensée à partager avec Gust de ta Sophie. J'avais déjà glissé cette lettre dans son enveloppe quand j'ai reçu un appel de la maison. Fritz est hospitalisé à Stalino. Il a perdu quelques doigts et risque de perdre peut-être aussi les talons, mais il est sain et sauf. Dieu merci.
Munich, 16 février 1943. Chère Rose, ta dernière lettre m'a attristée. J'ai vu tes larmes briller à travers les mots en la lisant. Et je ne puis les sécher. Pourquoi écrire ainsi ? Certes, je vis dans un état de transition permanente d'hier à aujourd'hui et demain. Mais la beauté du passé demeure intacte. La lumière de l'été dernier se reflète encore dans le présent. Faut-il éteindre son rayonnement par les ombres de la mélancolie ? Aujourd'hui, je dois être comme je suis. Je suis loin de toi, tant extérieurement qu'intérieurement, mais jamais détaché. Jamais mon respect de la pureté de ton cœur n'a été plus grand. Aujourd'hui que la vie est devenue un perpétuel danger. Mais parce que le danger, c'est moi qui l'ai choisi. Je dois me diriger vers la destination de mon choix, librement, sans aucune attache. La nuit la plus noire enveloppe mon cœur en quête. Mais je persévère envers et contre tout. Qu'il est beau ce mot de Claudel. La vie, c'est une grande aventure vers la lumière. Affectueuse pensée.
Munich, 17 février 1943. Chère Lisa, je viens juste de passer le quintet La Truite sur le gramophone. D'écouter l'Andantino, ça me donne envie d'être une truite. On ne peut s'empêcher de se réjouir et de rire, si ému ou triste qu'on soit dans son cœur, quand on voit les nuages du printemps dans le ciel et les branches bourgeonnantes se balancer, agitées par le vent dans la lumière vive du jeune soleil. J'attends impatiemment le retour du printemps. Dans ce morceau de Schubert, on sent et on respire vraiment les brises et les senteurs. On entend crier de joie les oiseaux et la création tout entière. Et la répétition du thème au piano, telle l'eau fraîche, pure, étincelante. Quel enchantement ! Donne-moi vite de tes nouvelles. De tout cœur, ta Sophie.
Hans et Sophie Scholl et leurs amis déposent à la sortie des salles de cours de l'université de Munich des tracts appelant à la résistance contre Hitler. Les derniers tracts sont balancés dans le hall au moment où les étudiants sortent. Hans et Sophie sont arrêtés. Ils sont condamnés à mort et guillotinés à la prison de Stadelheim le 22 février 1943.
Étudiants, étudiantes. La défaite de Stalingrad a jeté notre peuple dans la stupeur.
La vie de 300 000 Allemands, voilà ce qu'a coûté la stratégie géniale de ce soldat de deuxième classe promu général des armées.
Führer, nous te remercions.
Le peuple allemand s'inquiète. Allons-nous continuer de confier le sort de nos troupes à un dilettante ?
Allons-nous sacrifier les dernières forces vives du pays au plus bas instinct d'hégémonie d'une clique d'hommes de parti ?
Jamais plus.
Le jour est venu de demander des comptes à la plus exécrable tyrannie que ce peuple ait jamais endurée.
Au nom de la jeunesse allemande, nous exigeons de l'État d'Adolf Hitler le retour à la liberté personnelle. Nous voulons reprendre possession de ce qui est à nous. Notre pays, prétexte pour nous tromper si honteusement, nous appartient.
Il n'est pour nous qu'un impératif. Lutter contre la dictature.
Quittons les rangs de ce parti nazi, où l'on veut empêcher toute expression de notre pensée politique.
Désertons les amphithéâtres, où paradent les chefs et les sous-chefs SS, les flagorneurs et les arrivistes.
Nous réclamons une science non truquée et la liberté authentique de l'esprit.
Aucune menace ne peut nous faire peur, et certes pas la fermeture de nos écoles supérieures.
Le combat de chacun d'entre nous a pour enjeu notre liberté et notre honneur de citoyen conscient de sa responsabilité sociale.
Étudiants, étudiantes, le peuple allemand a les yeux fixés sur nous.
Il attend de nous. Comme en 1813, le renversement de Napoléon, en 1943, celui de la terreur nazie.
Nous nous dressons contre l'asservissement de l'Europe par le national-socialisme, dans une affirmation nouvelle de liberté et d'honneur.
C'était donc des extraits des carnets de Hans et Sophie Scholl, édités aux éditions Talendier, et juste avant Monsieur Doza, traducteur de ces textes. Vous pouvez écouter l'intégralité de la lecture dans notre médiathèque en cliquant sur canalacademy.com.